7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins. À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, nous nous interrogeons sur la lutte contre le gaspillage et les eaux usées. Un des grands sujets d'ailleurs du 8e forum mondial de l'eau qui se tient actuellement au Brésil, à Brasilia. L'un des objectifs de développement durable, c'est de garantir pour tous les habitants l'accès à l'eau, à l'assainissement et assurer une gestion durable des ressources en eau d'ici 2030. Autant dire que 2030, c'est demain. Et pour cela, il faudra au moins la moitié de la proportion d'eau usée non traitée et augmenter le recyclage et la réutilisation de l'eau. C'est un vrai problème. Or, pour l'instant, 80% des eaux usées dans le monde sont rejetées directement dans l'environnement sans aucun traitement, mais c'est beaucoup plus dans les pays pauvres. Alors comment reconsidérer les eaux usées pour qu'elles deviennent une ressource et non un problème? Nous allons en discuter avec nos invités. Jean Bosco Bazier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'ONG internationale Eau Vive, qui est basée à Ouagadougou, dont vous venez, au Burkina Faso. Vous êtes de passage en France. C'est une fédération d'associations qui réfléchissent et qui agissent sur l'eau.
Exactement, c'est Eau Vive International. Est une fédération d'associations qui œuvre depuis une quarantaine d'années cette année, en 2018, pour soutenir donc les pays en Afrique de l'Ouest et du Centre. C'est, en 40 ans d'action, c'est près de 3 millions de personnes qui ont eu accès à l'eau et à l'assainissement grâce à nos actions. Et nous souhaitons, et notre ambition, c'est de doubler ce chiffre au cours des 20 prochaines années.
Et vous nous parlerez bien sûr de la situation dans votre pays, au Burkina Faso. Maxime Burel, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes ingénieur pour Weco. Weco, c'est une société qui propose les toilettes du futur, dites-vous souvent.
C'est ça, tout à fait. Alors nous, ce que nous essayons de proposer, c'est une alternative en fait à la consommation au gaspillage d'eau effectuée dans les toilettes à l'heure actuelle. Et ce que nous proposons, comme vous l'avez si bien dit, c'est de proposer les toilettes du futur.
Alors, il faudra écouter l'émission jusqu'à la fin pour bien comprendre comment peut fonctionner ce type de toilette avec une technologie qui recycle les eaux usées pour un fonctionnement en circuit fermé. À l'inverse, on a des millions de personnes qui manquent d'eau. Alors, combien d'habitants sur Terre font leurs besoins dans de l'eau potable, hein? Il faut se poser la question. Ça commence tout juste à apparaître comme anormal, on va en discuter avec vous également, Julien Gabert, ingénieur. Vous avez coordonné un pavé de plus de 800 pages réservé aux professionnels, qui s'appelle le Memento de l'assainissement.
Bonjour, oui, le Memento de l'assainissement, un ouvrage qu'on peut trouver en ligne et dans les bonnes librairies et qui est édité par le GRET. Le GRET, c'est une ONG de solidarité internationale qui agit du terrain aux politiques dans une trentaine de pays depuis maintenant 40 ans.
Et vous nous direz en particulier où on en est dans le débat public avec les usagers de l'eau qui ne se sentent pas forcément concernés, sauf quand il y a pénurie d'eau ou que la facture d'eau est trop élevée. Voilà, on sera en ligne également dans quelques minutes avec Richard Connor, de l'ONU Eau. Et puis chez vous, les voisins, dites-nous quels sont vos problèmes avec l'eau, conséquences sur votre vie quotidienne. Vous pouvez nous appeler au 33 1 84 22 71 71. Un message d'Ozana qui est à N'Djamena au Tchad et qui nous dit que les eaux usées menacent la vie de la population à cause des piqûres de moustiques qui provoquent le paludisme. Dans mon quartier, quelques jeunes s'arrangent pour dégager ces eaux puisqu'il n'y a pas de canaux créés par le gouvernement et parfois les gens arrosent leur potager avec cette eau-là. Ça leur donne donc la typhoïde. Décryptage, Jean Bosco Bazier, de ce que décrit comme réalité Ozana.
Oui, tout à fait. Le chiffre de 80% que vous avez indiqué, c'est au niveau mondial. Mais pour la zone d'Afrique subsaharienne, c'est bien plus que cela. C'est
plutôt 95%,
plus de 90%, plus de 90%. Selon les pays, c'est le pourcentage donc des eaux usées qui sont rejetées dans la nature, avec bien évidemment les conséquences sanitaires pour les individus, mais aussi pour l'environnement.
Et parallèlement, ces mêmes usagers manquent d'eau potable, d'eau saine. Voilà, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Vous nous suivez sur Facebook, sur Twitter en direct. Et pendant ce temps, parallèlement, dans le monde développé, ça se passe comme ça.
Je voudrais juste aborder une broutille.
L'eau.
Si on arrêtait de s'en foutre.
Parce qu'il n'y a que 3% de l'eau qui est potable sur Terre.
C'est pour ça qu'en toute cohérence, on a décidé de tout faire avec, sauf d'en boire. 39% de toute l'eau que tu consommes, elle finit dans ta douche. 34% dans ton évier. 20% dans tes chiottes. 6%, on sait pas trop. Ce qui reste, c'est ce que tu bois. C'est 1% ! Au passage, selon le CNRS, un malgache consomme 10 litres d'eau par jour, alors qu'un Français a besoin de 137 litres d'eau par jour pour son usage personnel. On fait n'importe quoi ! Et tout le monde s'en fout. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on pourrait pas trouver un système pour que l'eau potable aille pas dans mes toilettes, s'il vous plaît ?
Nous sommes en ligne avec Richard Connor de l'agence ONU Eau. Vous venez d'entendre ce petit extrait qui a le mérite d'être très clair de la chaîne YouTube et tout le monde s'en fout, très didactique, mais on est encore loin de cette prise de conscience, non, Richard Connor ?
Je ne sais pas à quel point nous sommes loin. D'abord, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour.
Je crois qu'il y a une quantisation qui évolue. Si on regarde où on était il y a 20 ans, même 10 ans, on reconnaît beaucoup plus l'importance de l'eau, que ce soit par rapport au changement climatique. On aperçoit maintenant que les impacts principaux des changements climatiques se manifestent au niveau du cycle hydrologique. Il y a une sensibilisation au niveau des preneurs de décision qui reconnaissent de plus en plus le rôle central que l'eau joue, non seulement au niveau de la santé humaine et du bien-être, mais aussi au niveau économique, que ce soit de la création de l'emploi, au niveau de la sécurité énergétique, parce que maintenant, il y a une décennie, la relation entre la production énergétique et l'utilisation de l'eau n'était pas évidente, à part penser aux barrages hydroélectriques.
Oui.
Réalité, toutes les centrales thermiques ont besoin d'eau. Donc,
c'est pour l'eau en général, on est bien d'accord, Richard Connor, mais
oui.
Votre agence ONU Eau publiait il y a un an un rapport sur les eaux usées, le nouvel or noir. C'était un titre assez surprenant quand même pour le grand public. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui?
Alors, ça c'est vrai. Nous sommes un an depuis le rapport. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui s'est faite. Je veux dire, d'ailleurs, on entend les invités aujourd'hui mentionnent l'importance de reconsidérer la façon qu'on utilise l'eau en tant que véhicule pour évacuer les matières fécales. Dans un endroit où il y a pénurie d'eau, où l'eau est rare, ça semble un peu ridicule.
On a des eaux usées qui, d'un côté, polluent et d'un autre, des usagers qui manquent d'eau propre.
Voilà. Donc, une des conclusions du rapport, c'est justement d'utiliser l'eau comme une ressource, et les eaux usées comme une ressource et non comme un problème.
Très concrètement, et là on va faire un tour de table, mais quelles sont aujourd'hui les villes qui sont capables d'utiliser des eaux usées retraitées et redevenues propres? Richard Connor.
C'est pour moi. Il y a de plusieurs, aux États-Unis principalement, Los Angeles, San Diego sont d'excellents exemples. Et faut pas oublier que ce n'est pas seulement l'eau qui fait partie des ressources accessibles dans les eaux usées. On peut utiliser les boues, c'est-à-dire les matières organiques, comme pour produire de l'énergie, pour produire de l'électricité. À Stockholm, les autobus et les taxis fonctionne au biogaz.
Quand on réutilise les boues pour faire des biogaz, c'est pas pour les boire, c'est pour effectivement produire de l'énergie pour des transports, mais c'est pas la même chose.
Mais c'est directement relié parce que l'énergie qu'on en retire, elle va sur le marché. Et puis elle produit des bénéfices, c'est rentable économiquement. Et ces économies servent justement à payer pour les centrales de traitement d'eau. On oublie, je vais juste conclure rapidement, parce qu'on oublie une chose, la plupart sont prêts à payer une somme assez modique, mais une somme pour recevoir de l'eau. Mais le traitement des eaux usées coûte plus cher que le traitement de l'eau potable. Et c'est là qu'il y a un déficit budgétaire parce que les gens ne sont pas prêts à payer pour l'eau une fois qu'elle a été utilisée pour la traiter.
Eh bien, vous avez bien planté le décor et le débat aussi hein, pour les usagers, les autorités publiques. Merci d'avoir été en ligne avec nous, Richard Connor de l'agence ONU Eau. Julien Gabert, pour poursuivre déjà sur l'état des lieux, où est-ce qu'on en est? Quelles sont aujourd'hui les villes dans le monde qui sont sur le chemin du recyclage des eaux usées?
Alors, à ma connaissance, une ville comme Singapour, qui a des vrais problèmes de ressources en eau, traite complètement ces eaux usées qui sont réutilisées directement comme eau potable pour la consommation.
Alors, évidemment, avant de retraiter des eaux usées pour les rendre de nouveau propres et potables, il faudrait déjà éliminer ces eaux usées. Si on prend le cas de l'Afrique, Jean Bosco Bazier, quelle est la situation des villes africaines aujourd'hui dans ce qu'on appelle communément les constructions de stations d'épuration?
Mais je crois que pour l'Afrique subsaharienne, la zone que je connais le plus, c'est ces 10 dernières années. C'est la dernière décennie que les villes ont commencé à mettre en place de vraies stations de traitement. Encore faut-il que ces stations de traitement, elles soient au bout de la collecte, du transport, du maximum donc des eaux usées. Et c'est là réside aussi un des défis qui reste encore.
Si on prend une ville comme Ouagadougou, chez vous.
Oui. Alors
la station d'épuration.
Il y a une station
pour le centre-ville, pour la zone industrielle.
Exactement. Mais seulement la station, elle ne traite que à peine 10% du potentiel donc des eaux usées. D'une capitale comme Ouagadougou qui fait maintenant près de 3 millions, sinon plus de 3 millions d'habitants.
Et quand vous dites traite ces eaux usées, elles vont où ces eaux? Qu'est-ce qu'elles deviennent?
Alors ces eaux sont la plupart traitées pour pouvoir être remises, donc utilisées pour des activités de maraîchage à proximité. Mais on n'est pas encore dans une situation où ces eaux sont réinjectées dans le circuit de consommation pour pouvoir peser aussi dans le...
Elles ne sont pas potables, mais elles sont réutilisables pour l'agriculture.
Mais oui, par exemple, pour l'agriculture, c'est au moins la première utilisation qu'on peut... on a aujourd'hui. Sinon, il faudrait aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin dans la collecte de ces eaux et ensuite dans le système de remise donc dans le circuit de consommation de cette eau pour que finalement elle vienne aussi compenser parfois les déficits qu'on a. Parce qu'aujourd'hui, des villes comme Ouagadougou, elles sont au bout aussi de connaître ce que la ville du Cap en Afrique du Sud connaît. Parce que les établissements humains où vous transportez l'eau vers elles, ou vers eux, où vous transportez les hommes vers là où il y a de la ressource. Et aujourd'hui, des grandes villes comme Ouaga, c'est à 40 km que des barrages de mobilisation d'eau permettent d'alimenter la ville. Dakar, pareil, c'est 200 km, c'est le lac de guerre, et bien plus, et bien d'autres villes, à part des villes qui ont les pieds dans l'eau comme Brazza ou Kinshasa, ou Bamako, ou Niamey.
Bah, des Kinshasa, villes, on a des auditeurs qui nous appellent pour nous dire qu'ils ont quelques heures d'eau courante dans la journée.
Oui, là c'est un autre problème. Mais déjà le manque de la ressource brute, je parle du manque de ressources brutes, déjà pour satisfaire les besoins d'une ville comme Ouagadougou, située en plein centre du pays, sur un plateau où les ressources brutes elles-mêmes manquent, c'est déjà un gros souci.
Maxime Burel.
Oui, c'est pour ça que peut-être qu'en parallèle à ça, plutôt que de développer aussi des grosses stations d'épuration pour recentraliser, l'idée c'est peut-être donc de mettre en place des mini-stations donc implémentées un peu partout dans la ville, justement pour répondre à un besoin local des populations et après refournir en fait justement les ressources qu'on peut
notamment traiter. Un peu comme l'électricité solaire.
Tout à fait. Oui, voilà, c'est ça, c'est de mettre à disposition. Oui, tout à fait. Voilà.
Alors justement, on va parler de vos toilettes du futur, puisque vous êtes ingénieur donc pour Weco. Comment fonctionnent vos toilettes à chasse d'eau en circuit fermé? C'est comme ça qu'il faut dire?
Oui, c'est ça, tout à fait.
Comment ça fonctionne exactement? Donc, alors, c'est un prototype encore. Hein.
Oui, c'est exact, oui, tout à fait. On développe encore la technologie. Donc, à l'heure actuelle, donc, les toilettes que nous utilisons donc, sont des toilettes 100% autonomes en eau. Comme vous l'avez justement remarqué, donc, c'est un circuit fermé, c'est-à-dire que les eaux donc, issues de la chasse d'eau, donc le mélange d'eau, d'urine et de matière fécale, et recyclée sur place. Donc dans un système
de toilette.
Dans
la chasse d'eau, il y a une mini station d'épuration.
C'est ça, tout à fait.
Beaucoup plus gros comme chasse d'eau. Ça ressemble à quoi visuellement ?
Visuellement, alors la chasse d'eau, vous utilisez des toilettes traditionnelles. C'est juste à l'arrière donc de ces toilettes que nous installons en fait un système donc de récupération et de traitement. Et donc à l'issue de ce traitement, qui est gros comme environ 3 mètres carrés d'emprise au sol, donc vraiment une petite surface.
Oh, c'est pas, non, mais pour un logement individuel.
Pour un logement individuel, oui, c'est sûr, ça peut représenter donc un espace donc perdu.
Et qui a-t-il dans cette mini station d'épuration ?
Alors dans cette mini station d'épuration, donc on utilise donc deux technologies, donc un système de filtration et un système donc d'électrolyse. C'est-à-dire que nous allons donc traiter toutes ces eaux via de l'électricité et donc un traitement électrochimique pour justement régénérer l'eau et la rendre à nouveau donc utilisable dans le circuit des toilettes. Et ce système va encore plus loin, c'est-à-dire que dans les urines et les matières fécales, il y a de l'eau donc présente naturellement, et cette eau, on l'extrait et on génère un surplus d'eau. Et ce surplus, c'est de la ressource supplémentaire pour les
populations. Quand on vous écoute, on se dit c'est pas ragoûtant, évidemment.
C'est pas ragoûtant, mais le traitement.
Combien de temps pour purifier l'eau de la cuvette des toilettes via la chasse d'eau et cette mini station d'épuration et qu'elle devienne potable ?
Alors environ 4 heures.
En 4 heures ?
Oui, tout à fait.
De l'eau qui est extraite des matières fécales devient potable.
Tout à fait.
Aujourd'hui, ce sont des prototypes, ils sont testés où ?
Alors, notamment à Saint-Étienne et Vitry-sur-Seine. Donc, nous avons donc là, dans le cadre d'un partenariat avec un groupe d'artistes qui reçoivent donc fréquemment donc des populations. Donc, on a un prototype qui est en test justement pour voir où se situent les limites donc de ce système et jusqu'à quel point on peut justement fournir donc un surplus d'eau et donc alimenter diverses applications.
Les limites à l'heure actuelle sont technologiques ou financières ?
Les deux. C'est vrai que ça représente un certain coût, mais on peut amortir donc cela, notamment en considérant donc l'eau économisée donc au niveau des chasses d'eau, parce qu'on ne consomme pas d'eau, c'est vraiment 100% autonome, et considérant aussi la revalorisation, c'est-à-dire que l'eau produite en surplus peut être réutilisée. Donc, c'est-à-dire qu'on est générateur même de denrées, en fait.
C'est plus intéressant, par exemple, que les toilettes sèches, dont on a beaucoup parlé pendant un moment.
C'est différent parce que...
Qui n'utilisent pas d'eau du tout.
Alors, c'est différent, on ne va pas dire que c'est mieux ou c'est moins bien. C'est différent, c'est-à-dire que au niveau... on va dire de l'acceptation sociale et puis de l'hygiène de vie, les toilettes à eau ont quand même un avantage par rapport aux toilettes sèches. Et c'est pour ça qu'on se propose d'utiliser ces toilettes. D'autant plus que, donc, comme je vous le disais, ce système permet donc de générer donc de l'eau et de valoriser donc ces matières fécales.
Ça sent mauvais, cette mini-station d'épuration à l'arrière de la chasse d'eau ?
Non, parce que tout est isolé, donc il n'y a aucune communication entre les toilettes.
Alors, pour l'instant, vous êtes au stade du prototype, donc c'est un système qui coûte plusieurs milliers d'euros. Le prix pourrait devenir acceptable pour des pays en développement, comme on l'a vu pour les panneaux solaires sur les habitations individuelles, le prix a chuté considérablement, alors qu'il y a encore quelques années, c'était réservé à une élite.
Et tout à fait. C'est vraiment le but, c'est justement de fournir à ces populations qui sont en manque, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas accès à l'assainissement, donc que ce soit les toilettes ou les réseaux généraux. Et donc nous, ce qu'on essaie de promouvoir, justement, c'est une alternative à l'assainissement général qu'on a à l'heure actuelle, et c'est de pouvoir proposer à ces pays qui sont de plus en plus justement demandeurs, parce qu'ils ont eux-mêmes conscience justement du manque d'eau qu'ils ont, et donc de leur proposer cette alternative à moindre coût, bien sûr.
Ouais, encore faut-il déjà avoir accès à des toilettes, là aussi. Julien Gabert, qu'est-ce que ça vous évoque, ce prototype ?
Alors, ça me paraît une bonne idée, notamment pour rebondir sur ce que disait M. Burel, la construction de petites stations est vraiment envisageable sur le terrain, même dans les grandes villes. Je prends un exemple concret, à Antananarivo, à Madagascar, le GRET a appuyé plusieurs municipalités pour la construction de 4 petites stations, comme ça, qui permettent le traitement des eaux usées qui ont été récoltées...
À l'échelle d'un quartier, donc ?
À l'échelle d'un quartier. Voilà, les eaux usées sont récoltées par des vidangeurs chez les gens qui ont des fosses et des toilettes.
Alors, à l'ancienne, là, avec des charrettes.
Oui, on est vraiment dans des quartiers défavorisés avec des petites ruelles étroites. Les vidangeurs récoltent ces eaux et les déposent dans une station qui les traite. Ça permet de rejeter dans les rivières des eaux qui sont traitées, ce qui est le but premier du traitement pour éviter les maladies, comme c'était rappelé par votre auditrice de Djamena, et aussi de valoriser les produits de ces eaux usées, notamment du biogaz qui peut servir pour l'éclairage, pour la cuisson en cuisine, ou du compost qui est utilisé en amendement dans l'agriculture. Et tous ces produits sont revendus et peuvent apporter des ressources pour ce traitement.
Vous restez avec nous, on poursuit la discussion sur le recyclage des eaux usées. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes sur RFI, juste après le flash.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, c'est tous les jours du lundi au vendredi sur des questions de société et aujourd'hui nous sommes tous concernés, journée mondiale de l'eau, on s'interroge sur la lutte contre le gaspillage. Alors le gaspillage ça peut être aussi les canalisations qui sont mal entretenues et qui concernent d'ailleurs pas seulement les pays pauvres, y compris les pays développés, il y a beaucoup de fuites d'eau dans un pays comme la France via des canalisations pas toujours bien entretenues, mais aussi le recyclage des eaux usées, ce nouvel or noir dont nous parlait tout à l'heure Richard Connor de l'ONU Eau. Un nouvel or noir, si seulement ces eaux recyclées pouvaient servir à alimenter l'agriculture, ce qui est déjà le cas dans pas mal d'endroits, mais qui pourrait aussi redevenir potable. Vous nous l'expliquiez, Maxime Burel, puisque vous êtes ingénieur pour Weco, une société qui propose des toilettes écologiques avec chasse d'eau et mini-station d'épuration à l'arrière de la chasse d'eau. Alors, on le disait en première partie d'émission, C'est à la fois un prototype mais qui est en phase de test dans deux villes en France qui intéressent évidemment, vous nous le disiez,
des pays d'Afrique.
Jean Bosco Bazier, vous connaissiez cette technologie, vous qui êtes directeur de l'ONG, de la Fédération des associations Eau Vive.
Oui, je ne la connais pas directement, mais je me suis documenté là-dessus, j'ai vu cela et je pense que c'est une piste dans la mesure où, pour l'instant, nos villes n'ont que des réseaux très peu développés qui se concentrent que dans les centres, les zones résidentielles ou administratives et qui n'atteignent pas vraiment la
grande... Et qui passent par les pouvoirs publics, c'est-à-dire que l'assainissement, c'est la ville, c'est le pouvoir public.
C'est la ville. Le temps des investissements nécessaires pour développer un réseau à l'échelle d'une ville étalée comme Ouagadougou sur plusieurs kilomètres, ben je crois que c'est une vraie piste, c'est mini... ces super mini-stations familiales qui peuvent déjà permettre au moins de traiter donc les eaux usées.
Ou du moins des lieux publics, non, peut-être?
Oui, des lieux publics dans un premier temps, et après donc développer cette technologie pour l'usage domestique, effectivement, qui serait la piste la plus avantageuse en fait, pour tout le monde.
Mais dans un premier temps, ça pourrait toucher des toilettes publiques dans des quartiers où dans certains quartiers de villes africaines, on est encore au stade des toilettes publiques.
Je pense que dans nos villes, dans la configuration actuelle de nos villes, du fonctionnement aussi de nos centres urbains, il faut les toilettes publiques, c'est pas vraiment là où il faut investir pour ce type de mini-station. Ça reste encore très familial, les toilettes, les chasses d'eau, dans nos villes, c'est très familial, c'est pas public. Quand on parle de lieux publics, c'est peut-être dans des lieux administratifs, dans des écoles, et même dans les écoles, on est encore sur des toilettes sèches. On n'est pas encore dans des systèmes donc avec chasse d'eau comme là. Et je pense que c'est une piste pour, en attendant que des réseaux étendus, développés avec un bon système de collecte et de traitement plus global par la ville soit mis en place.
Julien Gabert.
Oui, je voulais réagir. Effectivement, la complexité du secteur de l'assainissement, c'est le nombre d'acteurs qui interviennent dedans. Si je prends un exemple concret à Vientiane au Laos, où le GRET avec son partenaire WTA vient de construire une station de traitement des eaux usées, c'est un travail d'une part avec la municipalité de la ville de Vientiane pour encadrer tout le secteur de l'assainissement. C'est un travail avec les opérateurs privés qui pompent, qui extraient les eaux usées, les bouts de vidange des fosses et vont les déposer dans la station. C'est un travail, comme le rappelait Jean Bosco Bazier, avec les ménages, avec les familles, pour les amener à avoir les bons comportements, à utiliser les services. Et il faut rassembler tous ces acteurs autour de la table, il faut beaucoup communiquer pour avoir un service qui marche tout le long de la chaîne, depuis les usagers jusqu'au retraitement des eaux usées.
Qu'est-ce que vous appelez les bons comportements?
Alors, les bons comportements, ça va être tout ce qui est notamment le lavage des mains avec du savon. C'est vraiment le premier moyen pour lutter contre tout ce qui est, en matière d'hygiène, tout ce qui est les maladies hydriques telles que la diarrhée, qui, je le rappelle, fait encore 1,5 million de morts par an dans le monde.
Et par manque d'eau aussi.
Par manque d'eau, voilà. C'est donc ce lavage des mains, c'est l'utilisation de toilettes. Comme ça a été rappelé, plus de 2 milliards de personnes n'ont toujours pas de toilettes dans le monde. Et c'est l'utilisation effectivement d'une eau potable au moment de la consommation.
Pour réagir à ça, c'est vrai que moi je pense que l'un des premiers vecteurs, c'est faire prendre conscience aux gens. Donc vous le disiez justement au début, effectivement il y a de plus en plus de personnes qui prennent conscience de l'importance de l'eau. Néanmoins je trouve que c'est pas encore assez marqué. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle en France, on le dit, une personne moyenne utilise 120 litres en général. Nous par exemple, dans nos démarchages, on a été confrontés par exemple à une prise de conscience globale, c'est-à-dire que les gens voient très bien l'intérêt du projet en se disant oui effectivement l'eau est précieuse, il faut la protéger, il faut la recycler. Mais quand on est confronté, par exemple, en France, à un prix de l'eau qui est dérisoire par rapport à ce que ça représente...
Quand vous dites à des Français, lorsque vous, dans des villes où vous testez actuellement vos toilettes du futur, quand vous dites à des Français, est-ce que vous avez réalisé que vous déféquez dans de l'eau potable? Est-ce que ça fait tilt ou pas dans la tête des Français?
Le plus flagrant, c'est que les personnes, des fois, n'en sont même pas conscientes, en fait, de cette problématique. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas que c'est des fois de l'eau potable qui est utilisée dans leurs toilettes. Et c'est à partir de là.
Ce n'est pas des fois, c'est systématique.
Une grande majorité en tout cas, on va dire. Et donc c'est déjà problématique, et d'autant plus que l'eau, de toute façon, quand on leur dit, on fait « oui, mais ça coûte pas cher ». Donc le vrai
mais
problème
dans
le pays...
un pays comme la France, l'eau de la chasse d'eau, on est bien d'accord, c'est la même eau que l'eau du robinet, que l'on boit dans un verre d'eau à la cuisine.
On est tout à fait d'accord, c'est exactement la même, la même
et
qualité.
Et c'est le cas dans la plupart des pays développés.
Il n'y a pas de souci, c'est exactement ça ce qui se passe, effectivement.
Vous restez avec nous et bien sûr, nous prenons vos appels si vous le souhaitez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un auditeur qui nous appelle de Kinshasa. Bonjour Cédar.
Bonjour Emmanuel.
Cédar, vous êtes en ligne avec nous, vous avez 27 ans, vous habitez à Lemba, c'est ça, au nord de l'agglomération de Kinshasa?
Ah oui, c'est ça, exactement.
Est-ce que vous avez pu suivre un peu nos débats avec nos invités?
Ah oui, j'essaie de suivre tout ce que les invités ont dit.
Par rapport aux eaux usées et par rapport à l'eau tout court, vous, quelle est votre situation en tant qu'habitant à Lemba, à Kinshasa?
Bon, d'abord, ce qui est de l'eau usée, il n'y a pas une politique, soit au niveau de l'État ou au niveau de privé, pour les recyclages de cette eau. Il n'y en a pas pratiquement. Nous pouvons dire, juste à propos de nous ici à la commune de Lemba,
oui.
Pendant qu'ils sont en train de vous appeler ici, il y a à peu près une ou deux heures que l'eau vient à peine de couler.
Ça fait que vous avez de l'eau depuis cette nuit.
Depuis cette nuit, ça fait deux heures, une ou deux heures comme ça que l'eau vient de couler.
Au robinet.
Et ça va couler au robinet. Ça va couler jusqu'à 12-13 heures et puis ça va couper. Là, on va attendre encore demain à la même heure.
Et comment
la question que moi...
Oui, allez-y, Cédar.
Oui, la question que je me pose, comment on peut demander à ces personnes qui, pour recevoir de l'eau, il faut patienter parfois pendant des heures, d'économiser de l'eau. C'est un peu ça ce que je me demande. Il est difficile de nous demander d'économiser de l'eau parce que là, on se rend compte que la Régie des Eaux n'a vraiment pas pitié de nous.
Ouais, la Régie des Eaux, qui est donc l'opérateur public, qui normalement ne devrait plus être en situation de monopole. Il y a des expériences de gestion commune de bornes-fontaines en dehors de la Régie des Eaux, mais semble-t-il, chez vous, dans votre commune, en tout cas, vous êtes complètement lié à la Régie des Eaux.
Ah oui, nous sommes dépendants de la Régie des Eaux. Jusque-là, bon, la loi a été promulguée, mais jusque-là, il n'y a vraiment pas ce qui est de concret pour la distribution de l'eau par d'autres entreprises. Il n'y a que la Régie des Eaux qui nous lie jusqu'en ce moment ici.
Chez vous, Cédar, il y a un robinet dans la maison ou c'est une borne-fontaine dans le quartier?
Il y a un robinet dans la maison.
Combien de robinets? Un seul?
Un seul robinet qui est dans la parcelle qu'on puisse... On a deux maisons dans notre parcelle, le même robinet pour nous deux. Il y a même des personnes d'autres parcelles qui viennent puiser de l'eau chez nous.
Et donc, dès que l'eau coule, évidemment, vous faites des provisions pour le reste de la journée?
Nous sommes obligés. S'il arrive que vous sortez le matin et que l'eau coule après, vous manquez de l'eau ce jour-là. Soit vous êtes obligé de laisser une personne à la charge de vous puiser de l'eau pendant votre absence, parce qu'il y a seulement un temps que l'eau est en train de couler. Ça ne coule pas toute la journée, c'est ici chez nous.
Ouais. Une personne qui surveille le moment où l'eau va revenir au robinet.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et on est bien à Kinshasa, une capitale de plus de 15 millions d'habitants.
Oui, c'est ça.
Merci de nous avoir appelés, Cédar. Évidemment, vous avez la parole, les voisins et les voisines, où que vous soyez dans le monde, au 33 1 84 22 71 71. Vos commentaires dans le studio dans quelques minutes. Sans Et voilà, et Dr Lass chez 7 milliards de voisins, voilà ce qui se passe, nous disait notre auditeur tout à l'heure, Cédar, à Kinshasa, quand on nous demande d'économiser l'eau alors que nous l'avons à peine quelques heures dans la journée dans la capitale congolaise et qu'il faut laisser poster une personne toute la journée pour surveiller le moment où l'eau revient au robinet. Jean Bosco Bazier de l'ONG, de la fédération d'ONG Eau Vive en Afrique. Quel est votre décodage par rapport à cette situation? Vous nous disiez d'ailleurs en début d'émission que des capitales comme Brazzaville, comme Kinshasa ne devraient a priori absolument pas manquer d'eau, étant donné la pluviométrie et la situation géographique de ces villes.
Oui, malheureusement, hein, ce que notre auditeur de Kinshasa vient de dire, ce n'est pas un cas isolé, c'est la situation de centaines de millions d'Africains qui vivent, soit dans les villes ou dans les zones rurales, qui manquent encore donc d'un accès pérenne à l'eau potable. C'est la conséquence évidemment du manque d'investissement pour la production de l'eau propre, sa distribution et son accessibilité au plus grand nombre. Donc ce qu'il dit, c'est valable pour plein de villes qui concentrent de plus en plus la population de nos
qu'est-ce
pays.
Qu'est-ce qu'on répond à Cédar qui dit « Mais comment voulez-vous qu'on économise quelque chose qui n'existe pas ?»
Mais c'est deux choses. Il y a deux choses qui totalement distinctes. Lui, il parle de l'accessibilité à l'eau potable. Ça pose bien sûr le manque des investissements. Et là, c'est les États, c'est les municipalités qui doivent mobiliser des ressources financières, qui doivent engager des travaux nécessaires, surtout dans des pays qui ont, j'allais dire, pour la nature les a quand même gratifiés d'une eau douce en quantité. Kinshasa a les pieds sur le fleuve Congo qui coule en permanence, toute l'année. Donc là, ce n'est pas un problème d'eau usée, non. C'est d'abord l'accès à l'eau potable pour le plus grand nombre et dans les meilleures conditions, pour les habitants de Kinshasa, mais aussi. Et c'est valable pour beaucoup de gens qui vivent dans nos grandes villes. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, s'ils n'ont pas accès à l'eau potable, ben, ce n'est pas à eux qu'on demandera en premier d'économiser, puisqu'ils vont économiser ce qu'ils n'ont pas. Donc voilà, ça c'est... Quand le thème aujourd'hui de... Le thème cette année du forum de Brasilia, c'est partager l'eau. Ben, il faut partager ce qu'on a. Ben, quand on n'a pas, ben, il n'y a rien à partager ou on va se battre pour le peu qu'on a à partager. Donc, voilà un peu la situation pour répondre. Et puis, je reviendrai avec un exemple pour les réseaux d'eau, les réseaux d'égouts, au Togo, la ville de Kara, où Ovive a accompagné la municipalité à mettre en place plus de 4000 mètres linéaires de réseau d'égouts, mais aussi une station de traitement des eaux. Et une question importante dont parlait Julien tout à l'heure, c'est la question de prendre en compte tous les maillons des acteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez en place tout ça, mais il faut que les familles se branchent au réseau. Et il faut qu'au bout, ils puissent payer, ils puissent contribuer au fonctionnement, etc. Et là, je suis sûr que c'est une question sur laquelle on reviendra.
Alors, mobiliser les usagers déjà pour payer de l'eau qui sort du robinet, de l'eau propre, c'est difficile. Mobiliser des usagers pour qu'ils payent l'évacuation de leurs eaux usées, comment on fait concrètement, Julien Gabert?
Alors, c'est possible. De la communication, encore une fois. Donc, ce qu'on peut appeler le marketing de l'assainissement. On le voit sur différents projets que le GRET met en œuvre en Mauritanie, au Sénégal, au Burkina Faso, où communiquer auprès des usagers sur l'importance de l'assainissement et les bienfaits que ça peut avoir pour leur famille et pour leur entourage, les amène à investir davantage dans leur assainissement.
Vous parlez de quels usagers? De ceux qui vivent avec moins de 2 dollars par jour?
Oui, on parle de gens qui, en milieu rural, je prends l'exemple d'un projet qui s'appelle Sanyakani, qu'on met en œuvre avec l'ONG Eau Vive au Burkina Faso, où on est en milieu très rural, où les gens vivent uniquement de leur récolte
où on
agricole.
On est donc très démonétarisé aussi.
Exactement. Et par des campagnes de communication, on peut amener les gens à prendre conscience de l'importance de leur assainissement et de l'importance d'investir dans leur assainissement.
Et ça veut dire quoi concrètement, investir pour ces gens-là?
Investir, ça peut être de l'ordre de 30 euros pour, par exemple, avoir une toilette à domicile, ce qui n'était pas le cas avant. Il faut rappeler aussi que 1 euro qui est investi dans l'assainissement, c'est 5 euros de bénéfices qui arrivent en retour en termes de
alors,
moindre dépense de santé, par exemple.
1 euro investi dans l'assainissement, c'est 5 euros de bénéfices pour une famille ?
Au niveau global, pour la société. Donc, c'est pour une famille, c'est des dépenses moindres pour la santé. On est moins malade, on dépense moins en santé. Pour la société, c'est un environnement qui est plus propre. Ça fait plus de tourisme, plus de pêche. C'est produire de l'eau potable devient plus facile et coûte moins cher si on n'a pas rejeté des eaux usées dans les fleuves en amont.
Aujourd'hui, oui.
Oui, et les ressources au niveau des communautés, on peut plus les envisager qu'au niveau local. Vous avez des ressortissants de ces mêmes communautés qui vivent en ville, qui ont un peu plus aussi de moyens. Et donc, quand on demande à une famille dans un milieu rural d'investir 30 euros pour de meilleures conditions d'assainissement avec des latrines, etc., c'est aussi faire appel aux ressortissants de cette communauté, les fils de cette communauté qui sont en ville et qui peuvent aussi investir, parce que, in fine, s'ils investissent dans l'assainissement, c'est aussi de la santé, des coûts en santé moindres qu'ils auront aussi à assumer eux-mêmes. Donc c'est vraiment toute la chaîne de la communauté, depuis la famille, depuis l'individu, la famille, le village, la région,
les pouvoirs publics,
le pays, hein. Les pouvoirs publics.
Richard Connor disait de l'agence ONU Eau en début d'émission que l'assainissement, ça coûte plus cher que de faire venir de l'eau propre, que l'accessibilité à l'eau, l'évacuation des eaux usées. Ça veut dire quoi? Dans les années à venir, dans les pays pauvres, il va falloir que les pouvoirs publics mobilisent combien de ressources? Est-ce qu'on peut donner un ordre de grandeur, Julien Gabert?
Alors, un ordre de grandeur d'investissement, je ne saurais pas vous dire comme ça, mais c'est vrai que, par exemple, il faut rappeler qu'en France, quand on paye l'eau potable, plus de la moitié du prix qu'on paye va au traitement, à l'évacuation et au traitement des eaux usées. Donc, il faut bien prendre conscience que ce traitement des eaux usées, il a un coût. Et encore une fois, on peut, à force de communication, amener les gens à investir ou à payer en partie au moins ce traitement.
Est-ce qu'on est en train aujourd'hui d'être vraiment sur des pistes innovantes du fait de la prise de conscience de la rareté de l'eau, de l'urgence aussi des situations, hein. Vous parliez de la ville du Cap, il y a les situations de stress hydrique dans le bidonville à Nairobi, à Kibera, il y a énormément de situations à l'heure actuelle qui sont inquiétantes sur le continent africain, Jean Bosco Bazzi.
Oui, je ne parlerai pas de pistes innovantes parce que les solutions, elles ont toujours existé, hein, dans les sociétés. Si le thème d'ailleurs de la Journée mondiale de l'eau 2018, c'est la nature au secours de l'eau, c'est la réponse est dans la nature, c'est bien parce que nous avons pas mal de réponses qui existent déjà dans la nature, que nous n'avons pas suffisamment utilisées ou nous avons investi dans les infrastructures, nous avons investi énormément dans les infrastructures
coûteuses sous la pression des bailleurs de fonds, sous-entendu ou pas?
C'est le modèle qui a été là depuis longtemps, mais malheureusement, on n'a pas essayé autre chose. Alors, on n'a pas essayé autre chose et on a continué. Et je vous dis, ça va être droit dans le mur, mais malheureusement, l'humain, il n'a d'oreille que quand il a dos au mur.
Mais à quoi vous pensez comme solution qu'on a largement délaissée et qui aurait pu être beaucoup moins coûteuse et plus productive pour l'accessibilité à l'eau?
L'accessibilité à l'eau, d'abord sur la ressource. Il faut quand même se préoccuper de l'aménagement de cette ressource avec une action combinée du réchauffement climatique, mais aussi de la croissance très forte, hein, de démographique. La ressource, elle n'est pas infinie. Et il faut vraiment se préoccuper de son renouvellement, de sa protection. Et là, faire revivre les écosystèmes, protéger les berges des cours d'eau, c'est des méthodes. Reboiser, protéger les forêts, faire en sorte que la nature reprenne un peu ses droits.
Et parce que protéger les zones humides, notamment.
Exactement, exactement.
Maxime Burel.
Et comme vous disiez, mais c'est surtout, je pense, sensibiliser l'humain. Parce que là, à l'heure actuelle, le problème qu'on rencontre au Cap, comme vous l'avez encore évoqué, c'est une dilapidation de la ressource sans gestion derrière. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont confrontés à des problèmes. Précisément, là, ils atteignent donc au mois d'avril.
Donc en Afrique du Sud, on est d'accord.
Donc dans une métropole
assez riche. Hein.
Voilà, tout à fait. Une métropole quand même assez riche qui a des moyens, donc notamment pour recycler les eaux, pour évacuer les eaux. Ils sont quand même dans une insuffisance de gestion qui les a confrontés justement à un pic donc qui interviendra au mois d'avril, à mi-avril, où il y a le point de non-retour qui est nommé ainsi parce que toutes les ressources en eau de la ville auront été consommées. C'est-à-dire qu'après, ils n'ont plus d'eau potable, ils n'ont plus rien du tout. Et pourtant, c'est une métropole. Donc déjà, à partir de cet effet de gestion et de compréhension donc de l'importance de l'eau, je pense que c'est primordial. Après, on pourra s'organiser justement sur les différents moyens pour les ressources d'assainissement et d'eau usée et de retraitement notamment. Mais je pense que la première piste, voilà, c'est de confronter les gens à leurs problématiques.
Pour une entreprise comme la vôtre, comme Weco, quelles sont les pistes de développement dans des villes africaines? Qu'est-ce que vous visez?
Alors, les pistes de développement, justement, c'est de leur fournir donc, un traitement donc, qui ne leur coûterait pas grand-chose. C'est-à-dire, on comprend très bien donc, les nécessités qu'ont ces populations donc, à vivre dans un cadre quand même agréable et vraiment donc plus sécurisé en termes de santé et d'hygiène. Et c'est pour ça que nous, les solutions que nous essayons de promouvoir là-bas, donc notamment au Sénégal, au Cameroun, au Burkina Faso aussi, donc au Niger, sont de justement une solution donc à moindre coût pour leur permettre et de leur voir accéder une qualité de vie donc différente.
Concrètement, rien à voir avec les toilettes dont on évoquait les tests.
Si, tout à fait. C'est justement
mais
de développer
une autre
ces
version
voilà,
plus adaptée
ça,
au continent africain.
Économique, voilà, c'est ça tout à fait. Qui rentre justement dans le.
Mais
dans
avec
le
quand
cadre
même le principe du recyclage de la des eaux usées des toilettes.
Oui, effectivement, tout à fait. Oui.
Julien Gabert.
Oui,
pour conclure.
Voilà, vous parliez vraiment d'innovation tout à l'heure. Une belle innovation, ce serait effectivement de ne pas uniquement investir dans des infrastructures, des égouts, des stations de traitement, mais aussi d'investir dans les hommes et les femmes qui travaillent dans ce secteur. Parce qu'on aura beau avoir les plus beaux égouts du monde, si on n'a personne pour s'en occuper, pour les maintenir, les entretenir, les réparer, on ne pourra pas faire fonctionner le service.
Et qui c'est veut vraiment être vidangeur aujourd'hui sur le continent
voilà,
africain.
Exactement, pas grand monde. Il faut s'appuyer sur ceux qui le sont déjà, les former, les accompagner. Et pour qu'ils fassent leur travail dans des conditions décentes, des conditions sanitaires décentes, et qu'ils puissent leur apporter un revenu suffisant pour vivre.
L'assainissement souffre aussi d'un vrai déficit d'image sociale, pas seulement sur le continent africain.
Oui, c'est un sujet qui est resté tabou hein, pendant longtemps, mais aujourd'hui, on n'a pas
toujours,
d'autre choix.
Qui est toujours
sans doute.
Personne ne s'intéresse à ça.
Pas le choix. Il faudra apprendre, il faudra aussi considérer tout ça comme que de la valeur. C'est des produits qui ont de la valeur qu'on peut réintégrer.
Personne ne s'intéresse à ça, l'assainissement. Vous parlez aussi des pays développés, d'ailleurs.
Tout à fait, oui.
Maxime Burel.
Quand on voit qu'à l'heure actuelle, en général, là, il y a 5 mètres cubes d'eau par seconde qui est évacuée par des toilettes, donc qui consomme en moyenne de 6 à 9 litres.
5 mètres cubes par seconde évacués par des toilettes, là, vous parlez de où?
De la France.
Oui.
Donc d'un pays développé. Donc c'est-à-dire que voilà, rien que par rapport à ça, donc les solutions qui peuvent être mises en place, c'est-à-dire d'utiliser des chasses d'eau qui consomment de 6 à 9 litres d'eau, c'est quand même aberrant. C'est tout à fait aberrant.
Et nous avons des eaux usées qui sont totalement oubliées, ce sont les eaux pluviales, ou en tout cas pour le cas de l'Afrique, si on trouvait des moyens de la récupérer et de la remettre dans notre système de consommation, déjà à domicile, ce serait un tant mieux pour tout le monde.
Et c'est pour ça, moi, je voulais vous remercier d'avoir fait un focus de cette émission sur l'assainissement à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Parce que là, c'est une vraie évolution pour le secteur. L'assainissement a toujours été le parent pauvre du secteur de l'eau et de l'assainissement. Et de parler uniquement d'assainissement dans l'émission le jour de la Journée mondiale de l'eau, je pense que c'est
Pas le versant le plus sexy du sujet, mais tout de même, c'est quand même, ça fait partie de la vie quotidienne. Et quand on fait des émissions uniquement sur les toilettes pour les Journées mondiales des toilettes, je peux vous dire qu'on reçoit des témoignages assez incroyables. En tout cas, aujourd'hui, vous étiez plutôt silencieux, les voisins. Merci à Cédar de nous avoir appelés de l'EMBA. Eh bien oui, les sujets font leur cheminement aussi, hein, dans la tête de nos auditeurs, histoire de réfléchir un peu à ce qu'il y a tout simplement sous nos pieds dans les maisons quand il y a des canalisations. Merci à vous tous, merci à l'équipe Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi. Vous pouvez bien sûr écouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio. À la rubrique des magazines, c'est tout simple, il suffit de cliquer. Et demain, 7 milliards de voisins, à l'occasion de la semaine de la presse à l'école, on parlera des fake news et autres théories du complot qui circulent sur Internet, ça coule presque aussi vite que l'eau. Et vous pourrez bien sûr participer à l'émission en nous contactant sur notre messagerie Facebook ou en nous appelant. Le standard, c'est toujours le même numéro, 33 1 84 22 71 71. Dans quelques secondes, ce sera la tranche d'information sur RFI.